Donc nous allons en fait commencer ce premier carrefour donc de bioéthique en prenant un peu de hauteur. Alors pas trop quand même, parce que vous voyez, quand on prend trop de hauteur, on tombe, mais là ce ne sera pas votre cas. Mais Jean et Marie-Dominique Devigne donc vont vous présenter en fait ces grands courants de pensée. Le docteur Jean Devigne est médecin biologiste au CHU de Nancy, spécialisé en hématologie. Il est confronté de par son exercice aux questions pour les maladies génétiques, au diagnostic en fait anténatal. Il a fait avec son épouse l'IET de Bruxelles, l'institut donc enfin l'étude d'études théologiques à Bruxelles. Ils sont l'un et l'autre donc parents de 4 enfants de 13 à 22 ans, membres de la communauté de l'Emmanuel. Et le docteur Marie-Dominique Devigne est chercheur au CNRS. Elle a une formation initiale de biologiste aussi, et actuellement elle est en recherche en informatique appliquée à la biologie, dans justement le domaine de la génétique humaine. Voilà, ils sont membres tous les deux de notre commission bioéthique et vie humaine au sein d'Amour et Vérité de la communauté de l'Emmanuel. Voilà.
Alors pour commencer, je vais vous donner une parole ce matin. Avant le topo, j'ai pris un petit peu pour ce topo et j'ai reçu « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous installerai sur votre sol et vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai parlé et je fais oracle du Seigneur. » C'est dans Ézéchiel au chapitre 37 et cette parole vient après que le peuple hébreu se disait « Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, c'en est fait de nous. » On a l'impression que, notamment avec la loi sur l'embryon qui vient d'être votée, mais tout est fait. Eh bien non, le Seigneur nous dit ici que l'Esprit Saint est à l'œuvre et qu'il combat avec nous dans ce combat pour la vie. Et gardons l'espérance que l'évangile de la vie va triompher.
Par ailleurs, sur ces sujets, nous savons que les thèmes que nous allons aborder aujourd'hui peuvent rencontrer les uns ou les autres dans un vécu particulier. Et nous vous demandons à l'avance pardon si nos paroles peuvent vous choquer ou vous blesser, parce que nous ne savons pas bien sûr ce que vous avez vécu et votre ressenti, hein. Et donc si nous n'avons peut-être pas les mots appropriés, bien pardonnez-nous et ne considérez en aucun cas qu'il puisse s'agir d'un jugement, on va dire des choses peut-être un petit peu tranchées pour témoigner de la vérité, mais en aucun cas ni nous ni l'Église ne juge les personnes, hein. Donc nous essayons de donner quelques clés pour éclairer notre raison lorsque nous sommes face à un choix éthique ou dans un débat, voilà. Et certes, nos paroles peuvent être maladroites ou mal tombées, alors vraiment pardon d'avance. Voilà, donc l'objectif de ce premier carrefour, comme le disaient Michel et Serge, c'est de comprendre un peu mieux comment fonctionnent nos contemporains pour ne pas se laisser piéger dans les débats, qu'ils soient publics ou privés, hein. Et donc de comprendre finalement, d'arriver, essayer de cerner quel est le cœur du problème dans tous ces débats, hein. Et qu'est-ce qui va fonder notre réflexion et nos choix éthiques. Voilà. Donc on va avoir deux parties. En une première partie, on va passer en revue 5 modes de pensée contemporains avec une petite pédagogie basée sur des sketchs, hein, des petits jeux de rôle là, qui durent 2 minutes, mais que les uns ou les autres vont vous présenter. Et donc chacun de ces petits sketchs va être ensuite interprété, analysé pour voir quel est le mode de pensée derrière, qu'est-ce qui cloche en fait, et voilà, comment conclure. Et ensuite, en deuxième partie, nous essaierons de recentrer sur une approche donc positive et qui fonde ce qui fonde ultimement nos choix éthiques, dans une perspective chrétienne, bien sûr. Voilà. Donc, on va commencer sans perdre de temps.
Voilà, nous sommes au journal télévisé. Bioéthique. Le professeur Sicard, que le président de la République avait chargé d'une mission de réflexion sur la fin de vie, vient de rendre son rapport. Il écarte la légalisation de l'euthanasie, mais conseille d'autoriser, dans certains cas extrêmes, le suicide assisté grâce à des prescriptions médicamenteuses.
Ah ouais, c'est comme en Suisse. J'ai vu ça dans un film. Là-bas, tu peux faire ça dans des maisons spécialisées. Quand t'en as marre, tu viens prendre des cachets et c'est fini. C'est dingue quand même.
Bah pourquoi pas? Moi je trouve ça finalement bien. À quoi ça sert de souffrir pour rien? Et puis de toute façon on est libre, non? On a toujours été libre de se suicider.
Oui mais là, c'est les médecins qui te donnent tes médocs. Et tu fais ça à l'hôpital, ça fait drôle quand même. Tu vas avoir dans une chambre un jeune qui a fait une TS qu'on cherche à ranimer, et à côté, une chambre avec celui qu'on aide à se balancer. Moi, ça me choque.
Non, mais ça serait que dans des cas extrêmes. Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire si les gens veulent se tuer? C'est leur vie, après tout, et on est libre. C'est ma vie, c'est mon droit, si je veux me suicider, toi, tu t'en fous?
Ah bah, justement, non. Je m'en fous pas que tu te suicides. Et puis ta mère, et ton père, et ta sœur, et tes potes, tu crois qu'ils s'en foutent? T'es libre? Mais t'es pas tout seul, tu sais.
L'alternance est difficile. Donc, je vais vous poser des questions. Hein. Je vais vous aider à réfléchir. Sur quoi est fondé l'argument du deuxième téléspectateur, Marius? Alors, on n'a pas dit les prénoms. On va rappeler. Donc, quel argument est invoqué pour dire c'est juste de faire l'euthanasie, le suicide médicalement assisté? La liberté, oui, effectivement, bravo. Alors, de quelle liberté s'agit-il? Liberté individuelle, très bien. Exactement, donc celle de l'individu tout-puissant qui maîtrise tout, le début de la vie, les fins de la vie. On pourrait dire la liberté 68 arde, pour ceux qui ont connu ou qui ont entendu parler, il est interdit d'interdire. Hein. Donc il s'agit d'une indépendance vis-à-vis de toute autorité. Et sur le plan social, de déployer au maximum les libertés individuelles, avec pour seule contrainte de les rendre le plus compatibles possible entre elles. Donc je suis libre de disposer de mon corps, de ma vie, de choisir ma vie, mon partenaire, mais aussi de m'en séparer, de choisir mon orientation sexuelle, CF, Judith Butler et le gender, la famille que je veux construire, ses modalités, de décider de ma vie, de ma mort, de l'heure de ma mort. Voilà, je contrôle tout quand je veux. Alors, donc, ceci, pas uniquement pour le droit au suicide, la fin de vie, mais aussi pour le début de vie. Hein, CF, le slogan, un enfant quand je veux, si je veux, le droit à l'enfant au nom de la liberté, qui aboutit au choix sur la vie d'autrui, finalement, de l'enfant, à savoir les embryons aussi, dans le cadre de la PMA, procréation médicalement assistée, les embryons surnuméraires, dans le cadre de la FIV, ou, dans certains pays, ça arrive assez souvent, le sexe de l'enfant. Alors, de quelle société s'agit-il ? Libertaire, oui, proprement individualiste, effectivement. Donc il s'agit de juxtaposition de sphères individuelles de liberté. Et on fait en sorte de minimiser les heurts, de gérer les choses pour que les libertés individuelles soient compatibles. Et on appelle cette approche l'approche individualiste. Voilà. Quelle est l'ambiguïté de cette vision de la liberté? Qu'est-ce qui ne va pas? On n'est pas seul au monde, effectivement. On ne tient pas compte, finalement, de la réalité des choses. Hein. Peu importe la réalité de mon corps, je choisis mon orientation sexuelle. Donc, l'homme livré à ses propres désirs finit par nier toute rationalité. Donc, il n'y a pas de raison dans ces approches. Et il y a une méconnaissance des trois degrés de la liberté. Un premier degré de liberté qu'on a tous connu, c'est la liberté de dire non. C'est l'enfant de 2 ans qui dit non systématiquement. Et puis après, il y a la liberté d'avoir le choix. Alors il y a deux écueils qui peuvent se présenter à moi. J'ai peur de ne plus être libre si je n'ai plus le choix. Donc si je choisis, j'ai exclu d'autres choix. Donc forcément, je renonce à d'autres choix possibles. Mais comme j'ai peur de ne plus pouvoir les choisir, je ne choisis plus. En fait, je n'exerce plus ma liberté. Et puis, autre écueil, tous les choix seraient équivalents, mais c'est non fondé sur la réalité biologique, mon sexe par exemple. Hein. Et puis, autre degré de la liberté de choisir le bien. Hein. dans Deutéronome, au chapitre 30, verset 19, le Seigneur dit « Choisis donc la vie ». Donc si on choisit le mal, par définition, notre liberté diminue, car nous devenons esclaves du péché et du mal. CF, la parole de Dieu, j'ai pas de citation. Alors, exemple, je choisis de me droguer. Je suis libre, donc je me drogue. Et je deviens tellement addict que je suis dépendant de la drogue que j'ai choisie. Où est ma liberté? Et je suis d'autant moins libre que je suis addict et d'autant moins libre de faire autre chose. Et puis, dans cette liberté de choisir le bien, il y a la nécessité du choix éthique. Le meilleur bien. Donc, choisir le bien, réfléchir à ce qui est bien, implique donc la mise en jeu de l'intelligence. Il n'y a pas de liberté sans intelligence. L'intelligence me fait analyser les différents choix et choisir le meilleur bien. Et pour exercer ma liberté, j'ai besoin d'un travail de l'intelligence. Et je pose un acte de volonté sur les différents choix qui me sont proposés, analysés par l'intelligence. Pour conclure sur ce premier sketch et l'individualisme, nous allons citer Elisabeth Montfort dans le colloque de bioéthique en 2002 qui résume bien les limites de cette position. L'individu remplace la personne humaine. La société de l'individu se substitue à la société des personnes. Dans une société de personnes, les personnes reconnaissent qu'elles ont quelque chose en commun qui est leur humanité. Une telle société est tournée vers la recherche du bien commun. Dans une société d'individus, chaque individu est limité par lui-même et ne s'intéresse qu'à la satisfaction de ses besoins individuels. Du coup, l'individu peut être menacé par d'autres individus dans la réalisation de leurs besoins individuels. C'est la porte ouverte à la discrimination, au rejet. On voit cela émerger dans des groupes minoritaires qui réclament une reconnaissance, une égalité de droit. C'est que, paradoxalement, l'exaltation de la liberté individuelle conduit à la discrimination de certains individus par les autres qui n'ont pas le même droit. Donc, l'individualisme a aussi ses limites par rapport à la liberté et le droit. Ensuite, deuxième aspect que décrit Elisabeth Montfort, c'est risquer de limiter la dignité d'une personne à sa liberté, à son autonomie. L'être humain le plus digne, le plus grand, serait celui qui est le plus libre, le plus capable d'autonomie, le plus capable de choisir. Réciproquement, celui qui n'est plus autonome n'est plus digne. Alors que dire des personnes handicapées, fragiles, des bébés, dans le sein de leur mère, des personnes âgées dépendantes? Au maximum, il y a un philosophe australien nommé Peter Singer, qui est titulaire de la chaire d'éthique de Princeton, pas moins, et qui soutenait « Les nouveau-nés ne possédant pas la caractéristique essentielle qui font une personne, notamment la rationalité et l'autonomie, alors il n'y a aucun problème de le supprimer, car le meurtre d'un nouveau-né n'est pas équivalent à celui d'une personne. » C'est un titulaire d'une chaire d'éthique qui dit ça. Donc c'est cette logique de l'individualisme et de l'autonomie liée à la liberté qui pousse à de telles thèses. L'individualisme traduit la perte de toute réalité objective sur l'homme, on le voit bien dans cet exemple, sur ce qu'est une personne humaine, et pour la personne humaine et son approche, sa définition, nous y reviendrons à la fin. Nous allons faire le sketch 2, qui sont les volontaires. Merci.
Qu'est-ce que tu fais l'an prochain ?
Là, j'ai fini mon internat. Après, on me propose un poste en gynéco, mais j'hésite entre faire de la clinique ou de la recherche.
Ah oui ? T'es tentée par la recherche ?
Oui, mais j'hésite un peu.
Ah bon ? Pourquoi ? T'as un bon profil pour la recherche, pourtant.
Oui, mais tu vois, dans mon domaine, la recherche en génétique, on doit utiliser des cellules souches. Et il y a toute la question des embryons. Travailler à partir d'embryons humains, sur le plan éthique, moi, ça me gêne.
Ben pourquoi ? De toute façon, ces embryons sont congelés et ils vont être détruits. Il y en a des milliers. Soit les gens les abandonnent, soit ils les donnent à la recherche, soit ils les oublient. C'est le même résultat.
Oui, mais quand même, ça me gêne.
Écoute, de toute façon, ils sont morts ou ils vont mourir. Alors autant qu'on les utilise pour la recherche, non ? Ça, c'est utile. Quitte à les détruire, autant qu'on puisse récupérer les cellules souches. Ça ne change rien pour personne, alors autant que les labos puissent les utiliser.
Oui, c'est vrai, vu sous cet angle-là.
Derrière cette situation, derrière ces réactions, quelle est la pensée ? Quel est le mode de pensée, à votre avis ? Relativisme, utilitarisme, c'est les mots qui conviennent. Hein. Ouais. On voit que pour l'une des étudiantes, hein, l'embryon, bah, c'est un magnifique sujet de recherche. Voilà, toutes ces cellules souches à étudier, ça va être un matériel super. Quel beau programme. Je comprends ça parce que je suis chercheur, mais bon, ça a des limites, on va le voir. Hein. Donc, on se rend compte que ces embryons donc sont réduits à leur fonctionnement, à leur voilà, c'est des cellules organisées entre elles, etc. Donc à du fonctionnement. Hein. C'est un matériau et l'être humain finalement qui est là hein, est réduit à du fonctionnement. Et dans d'autres domaines, on peut transposer. Hein, ça peut être un fonctionnement psychologique aussi, réduire l'homme à son fonctionnement psychologique. Ça peut être un fonctionnement social aussi, hein, réduire l'homme à sa place dans la société, etc. Hein. Et donc, le questionnement bioéthique, là, enfin, quand il est faussé, il va consister à chercher à harmoniser ces fonctionnements, hein, fonctionnements des êtres humains entre eux, un peu comme on réglerait une machine, hein, pour que tout aille bien. Voilà. Et donc c'est de l'utilitarisme, c'est vraiment l'approche utilitariste. Donc typiquement, voilà, ces embryons, s'il n'y a plus de projet parental, eh bien, c'est utile de pouvoir en disposer parce que ça va apporter un meilleur bien-être à certaines personnes dans les résultats. Enfin, ce n'est pas encore démontré hein, en l'occurrence, mais c'est le raisonnement qu'il y a derrière. Hein. De même, il serait utile de pouvoir se cloner un double pour avoir des cellules de rechange hein, quand même. Voilà. Donc ce serait vraiment, voilà, c'est l'approche utilitariste. Et le critère, c'est la qualité de vie, c'est le bien-être de la personne qui va en profiter, voilà, qui va bénéficier des résultats de la recherche. Alors, dans cette logique utilitariste, qu'est-ce qui ne va pas ? On n'est pas des objets, oui. Voilà. Exactement. On va finir. Oui, pardon, je répète. Hein, on va justifier un acte mauvais par une finalité qui est bonne, hein, qui serait bonne, hein, parce qu'en l'occurrence, elle n'est pas complètement bonne. Donc, c'est la justification des moyens par la fin. Hein. Or, voilà. Jamais une fin, si bonne soit-elle, ne peut justifier un acte mauvais par nature. Hein. Donc cette logique utilitariste ne peut pas faire l'économie d'une réflexion, hein, d'une réflexion sur la nature de l'acte qui va être posé. Hein. Et par rapport à la logique donc utilitariste, Jean-Paul II, dans Veritatis Splendor, dénonce cette logique qu'il appelle, lui, conséquentialiste, c'est des grands mots, mais c'est parce qu'elle résonne en évaluant les conséquences de chacun des choix possibles. Vous voyez, on imagine qu'on a le choix, on va utiliser les embryons ou pas les utiliser. Alors quelles sont les conséquences ? On va peser le pour et le contre uniquement par les conséquences. Hein. Et donc le choix consiste à choisir ce qui produit les meilleures conséquences pour un meilleur bien-être, sous-entendu pour les personnes qui en profitent. Hein. Voilà. Et donc, comme dit précédemment, il fait abstraction de la nature bonne ou mauvaise de l'acte qui va procurer ce bien-être. Hein. Donc, dans l'exemple du sketch, le choix bioéthique doit s'appuyer sur une réflexion sur la nature humaine de cet embryon hein, et sur son statut de personne qui est un problème réel qu'il faut envisager. Hein. On y reviendra aussi. Et de plus, donc, corollaire, comme je l'ai un petit peu sous-entendu, ben, ce mode de pensée utilitariste fait deux poids, deux mesures pour les deux vies humaines qui sont considérées. Bien sûr, on va chercher le plus grand bien-être, la guérison, par exemple, d'une personne qui profiterait des cellules souches, mais l'autre personne qui est là, cet embryon, eh bien, il est en situation de fragilité, d'impuissance. Ça peut être aussi un choix utilitaire pour un vieillard qui devient gênant pour tout le monde, qui devient coûteux pour la société, etc. Et donc, cette personne-là, eh bien, on ne va pas chercher son meilleur bien-être. La logique utilitariste ne va pas le privilégier. Voilà. Donc, en conclusion, ce mode de pensée utilitariste recouvre un profond mépris de l'être humain, en tout cas de celui qui est fragile, qui sera sacrifié. De quel droit ? N'est-ce pas un être humain qui mérite le respect ? Et n'est-ce pas que le respect est fondé dans la nature humaine de la personne ? On ira jusqu'à dire parfois que cela confère une dignité aux embryons surnuméraires que de mourir pour sauver des vies. Oui, mais enfin, voilà, ils n'ont pas choisi de mourir non plus. Donc, un mépris. Et un mépris aussi, finalement, de celui qui va asseoir son bien-être sur la mort d'autres êtres humains. Quelle est la grandeur à cela, de chercher son bien-être en sacrifiant des vies? Où est la noblesse de la personne humaine? Donc, un mépris de l'être humain et une atteinte de la dignité de la personne humaine, encore une fois, comme il a été dit, donc l'embryon étant considéré comme un objet. Et vous savez que pour le Comité consultatif national d'éthique, l'embryon a été, on lui a donné le statut de, vous savez, personne potentielle, personne humaine potentielle. Donc ça, c'est quelque chose d'assez unique. On y reviendra parce que c'est aussi un mode de pensée de compromis. Voilà. Ça veut dire que selon ce que ça nous arrange ou pas, c'est une personne ou c'en est pas. Voilà, tout simplement. Et dès qu'il n'y a plus de projet parental, ben c'est plus qu'un tas de cellules bon pour la recherche. Voilà. Voilà, de façon plus générale, on recite Elisabeth Montfort qui disait qu'en affirmant, comme on le fait pour les embryons surnuméraires, qu'on peut être seulement en partie, partiellement, une personne humaine, eh bien, on nie le concept de personne humaine. Et là aussi, on y reviendra sur ce concept de personne humaine qui est vraiment clé et fondamental. Et que cela supposerait qu'il y ait des catégories d'êtres humains plus dignes de vivre que d'autres. Et on sait où ce genre d'idéologie ont conduit dans les totalitarismes du XXe siècle.
Alors, on n'abordera pas ce sujet, cette question-là. Ça sera abordé dans les autres séances du parcours. Donc, la prochaine. Donc, je vous invite à venir. À cette question, tu veux que je réponde maintenant? Mais tu sais que ça suppose des développements de plusieurs heures de cours. Bon, alors je répète la question. Par rapport aux embryons surnuméraires, qu'est-ce qu'ils deviennent? Voilà. Et qu'est-ce qu'il est éthique? Non, mais qu'est-ce qu'on fait de ces embryons humains, surnuméraires? Alors, techniquement, ils sont en France, par exemple, quand on fait une implantation, on implante plusieurs embryons, ce qui fait que dans les FIV, il y a une fréquence importante de grossesses multiples. Quand il y a des grossesses multiples, elles sont tellement multiples parfois qu'on procède à une réduction embryonnaire, c'est-à-dire un avortement. C'est-à-dire on permet sur les 3 ou 4 qui sont présents qu'il n'y en ait que 3 ou 2 qui aillent jusqu'au terme. Ensuite, ils sont conservés en azote liquide, ad vitam, et tant qu'il y a un projet parental. Après, ça arrive qu'ils soient détruits, et donc par rapport à l'éthique, alors ça sera abordé, je pense, la fois prochaine. Par rapport à l'éthique, c'est une question complexe parce qu'il y a une position de l'Église qui nécessite plusieurs heures de développement avant de la comprendre.
L'argument utilitariste, donc de toute façon. Ils sont là, ils peuvent servir. Le problème, c'est simplement, et on peut pas le développer là, bien entendu, mais on va le développer, je pense, dans la suite, c'est le statut de l'embryon. Si c'est un objet sans vie, si c'est une personne potentielle, si c'est pas une personne, si c'est une personne par degré, pourquoi pas l'utiliser? Je peux utiliser mon chien, je peux utiliser un... Si Brigitte Bardot veut bien, là les objections sont beaucoup plus importantes pour utiliser un animal. Mais un embryon, le problème est le statut de l'embryon. Si l'embryon est une personne, à ce moment-là on définira ce que c'est, et c'est niette, philosophiquement parlant, éthiquement parlant. On peut dire, voilà pourquoi on ne l'utilise pas. C'est pas savoir si ça va rendre service, si ça va éventuellement aider à guérir. D'ailleurs, pour l'instant, aucune étude n'a montré que ça allait aider à guérir quoi que ce soit. On le sait bien, mais ça c'est un autre problème, on pourra vous en reparler. Donc le problème, c'est le statut de l'embryon, simplement. Hein? Est-ce que c'est une personne? Est-ce qu'il y a... Et qu'est-ce que c'est qu'une personne? Et quelle est la dignité d'une personne? Et est-ce que dans la dignité d'une personne, il est possible de pouvoir l'utiliser à une fin? Ça va? Ça répond ou pas? Hein? Mais après, il faut redéfinir. C'est absolument essentiel de redéfinir la notion de personne. Ah oui, alors je garde le micro parce que j'ai un sketch à faire. Alors, comment vas-tu, dis donc? Alors, qu'est-ce que tu fais cet été?
Ah ben, moi, je fais 3 festivals avec mon assos. On récupère les déchets sur les festivals et puis on fait de la sensibilisation.
Ah ouais, et ça porte sur quoi, alors, la sensibilisation?
Bah, tu vois, c'est sur les modes de vie, parce que les modes de consommation, faut vraiment changer les comportements, hein, si on veut s'en sortir. Parce qu'au niveau énergétique, c'est la catastrophe. La seule solution, c'est de changer complètement de mode de vie.
Et tu crois que ça va suffire, les petites actions, pour récupérer les canettes dans les concerts?
Ah certes, c'est sûr que ça va pas suffire, hein. Mais c'est une somme de choses qu'il faut changer. Parce que la pollution, si on veut vraiment sauver la planète et trouver l'équilibre, il y en a qu'une en fait.
Ah bon, mais c'est quoi?
Pour rétablir l'équilibre carbone et préserver les écosystèmes, il faut à tout prix limiter la pression humaine. Et là, il n'y a pas de secret. Stopper l'augmentation de la population. Plus de 6 milliards d'hommes, c'est déjà beaucoup trop pour la planète. L'idéal, ça serait de revenir à 5 milliards.
Ah oui, alors tu flingues 1 milliard d'humains et on sera tous heureux sur Terre.
Tu rigoles, mais en fait, on peut pas vraiment nourrir tout le monde sans épuiser les sols et en respectant les forêts. Il faut à tout prix arrêter de se reproduire. D'ailleurs, avec mon assos, on milite pour imposer le droit à ne pas avoir d'enfants. Arrêtez de faire des gosses et occupez-vous un peu mieux du milieu naturel. C'est ça le bonheur.
Ouais, ben ce serait encore pire qu'en Chine, ton truc.
Alors derrière ces réactions, cet échange, quelle pensée sous-tend ces manières de voir? La nature passe avant tout. Hein. La terre, le devenir de la terre. Donc il faut protéger la planète à tout prix. Rétablir l'équilibre des écosystèmes. Libérer la nature un peu comme on a libéré l'homme de l'esclavage au XIXe siècle. Donc l'homme n'a plus sa place comme celle qui lui a été donnée par le plan de Dieu. L'homme n'est qu'une espèce parmi tant d'autres dans la nature. Mais c'est une espèce qui est dangereuse pour la nature. Il détruit la nature. Il faut donc détruire ou en tout cas limiter sa prolifération. CF, vous connaissez tous le commandant Cousteau, lui il était plus drastique, il proposait de viser 500 millions d'êtres humains sur la Terre. Voilà. Donc c'est l'approche écologiste, selon la philosophie de l'écologie profonde fondée par Aldo Leopold au XXe siècle, qui implique un véritable culte de la nature, et l'homme n'est comme un pion sur l'échiquier. Et on a parlé du malthusianisme, vous savez ce que c'est? Donc c'est le premier qui a proposé une limitation de la démographie humaine dans le but de préserver la Terre. Voilà. Donc ce mode de pensée est assez en vogue dans les instances de l'ONU aussi. Et l'on essaie de réduire à tout prix la démographie de certains pays avec des programmes de stérilisation en masse ou la promotion d'une contraception orale. Alors, quelle est l'ambiguïté de ce mode de pensée? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, en fait, c'est la juste place de l'homme dans la nature. L'homme fait partie de la nature, effectivement, mais il y tient une place particulière en tant qu'être raisonnable. Alors, je vous renvoie au psaume 8. Dans la Révélation, l'homme est présenté comme créé au sommet de la création. non pas pour la dominer, la servir à servir, mais la servir sans un, c'est-à-dire au service de la création, pour continuer l'œuvre de création du Créateur. Donc la nature a à être respectée, mais tout simplement parce que c'est la mission qui a été assignée à l'homme par Dieu, dans le plan de Dieu, et puis aussi, accessoirement mais très important, c'est son lieu d'habitation, c'est sa maison. Hein. La terre où il s'assoit, comme dit la chanson. En conclusion, il s'agit de remettre une juste relation de l'homme à la nature en place. L'homme ne peut pas maîtriser la nature, l'instrumentaliser à outrance pour son seul profit, détruire ses réserves, sa biodiversité, etc. Il ne doit pas non plus l'adorer, lui rendre un culte au mépris de sa propre existence. Entre ces deux extrêmes, il doit trouver sa place et réfléchir à ce qu'il fait pour préserver la planète. Et donc, c'est l'importance d'une écologie humaine, selon le nom donné par Tugdual d'Herville à son mouvement. Il s'agit d'une écologie au service de la personne humaine qui est respectée pour ce qu'elle est.
Vous n'avez pas entendu ? Donc, la personne a souligné la différence de point de vue hein, entre les sociétés occidentales qui consomment à outrance et qui voient les réserves s'épuiser, et les sociétés plus pauvres qui, elles, consomment très peu, mais effectivement ont une forte démographie. Hein. Et effectivement, c'est la première des populations qui veut limiter l'autre. Donc il y a, mais c'est la perversion hein, de cette position-là aussi.
Alors il y a sûrement beaucoup de questions. Je vous demande de les noter. On va faire comme à l'école. Et puis on les abordera après. Hein. Mais il faut qu'on avance parce que l'heure tourne. On a commencé un petit peu en retard et on doit terminer à 16 heures. Je vous remercie.
Donc le quatrième sketch impliquait trois personnes, je crois.
Salut, tu peux venir à ma soirée samedi ?
Ah non, je suis désolé, je suis pris. Je vais à la réunion des veilleurs pour la famille.
Quoi, t'es toujours à te battre pour ces histoires de mariage ? Mais laisse tomber. D'abord, la loi, elle est passée. Et puis, qu'est-ce que ça peut te faire que les hommes se marient ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Que les homos, pardon, se marient.
Mais ma chérie, le mariage, c'est le mariage. C'est un homme et une femme, et puis c'est tout.
Pour toi, c'est ça. Mais pour d'autres, c'est deux hommes ou deux femmes. Faut un peu atterrir et voir le monde, mon coco. En plus, la loi, elle enlève rien aux hétéros. Tu peux te marier comme avant, tu sais. Les lois, elles doivent donner les mêmes droits à tous.
Moi, le mariage, je m'en fous. Mais ce qui me choque, c'est qu'ils puissent adopter. Avoir deux pères ou deux mères, c'est pas bon pour l'enfant, ça.
Mais c'est de l'intolérance pure. Justement, je vois pas pourquoi la loi imposerait un seul modèle, puisqu'il n'y a plus de modèle. Faut que chacun ait sa place dans la loi, c'est tout.
Quand même, si les couples gays peuvent faire des PMA, ça me gêne. Mais le mariage, après tout, c'est leur truc. On pouvait pas empêcher ça.
Mais arrêtez, moi comme chrétien, je suis pas d'accord avec ça.
Bon, écoute, toi t'es chrétien, c'est très bien, et personne t'empêche de te marier comme avant. Mais moi, je suis pas chrétienne. Alors, on va pas imposer à toute la France vos manières de faire. La France, c'est un pays laïque, non ?
Merci beaucoup. S'ils mettent du cœur. Hein.
Alors voilà. Donc, au-delà, on va essayer d'aller un peu au-delà du fond, hein, parce qu'il y a un débat de fond qui nous a bien occupés là, toute cette année, mais quel est le mode de pensée, là hein, quel est l'argument sous-jacent ? Égalitarisme ? Relativisme ? Tout se vaut ? Voilà. Hein. Une petite phrase, il faut que chacun ait sa place dans la loi. Hein. C'est peut-être la phrase qui résume le mieux ce qu'on voudrait vous faire passer, c'est que la société est vue comme une mosaïque, finalement, dans laquelle il y a plusieurs groupes de populations qui acceptent telle ou telle valeur plutôt que telle autre, voilà. Et en fait, la loi va chercher à tout concilier, hein, en faisant un compromis à peu près acceptable par tous, à peu près, hein. Donc finalement, la vie politique, là, le droit va consister à des négociations, qu'elles importance on va donner à ce point-là de la loi, un peu moins, un peu plus, etc. Et au bout du compte, on cherche le consensus. Hein. Donc c'est le mode de pensée consensuel, hein, une approche consensuelle. Hein. Et c'est omniprésent dans la vie politique hein, à l'heure actuelle. C'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Mais on va voir ce que ça sous-entend. Enfin, on le sait. Hein. Donc on considère que la vérité va émerger du dialogue, hein, de l'expression de chaque mode de chaque opinion. Et c'est tout à fait ce qui se passe dans les comités d'éthique, hein, comme le comité national d'éthique français. Hein. Donc, on va faire parler tout le monde, en représentant de tout, hein, on ne va pas en oublier. Hein. Et on ne va pas chercher une vérité universelle, mais un équilibre entre des vérités, hein, le relativisme que certains avaient mentionné. Donc, on revient au statut de l'embryon, pourquoi pas. Hein. Donc l'expression qu'a choisi le comité national d'éthique, c'est de dire c'est une personne potentielle. Donc c'est un merveilleux exemple de compromis. Hein. Ça nous permet de dire une chose et son contraire. Voilà. Hein. Donc on va pouvoir autoriser l'avortement puisque c'est pas encore une personne. Voilà. Et puis on va interdire par contre la recherche sur l'embryon parce que c'est une personne potentielle. Bon, cela dit, quelques années plus tard, on va permettre cette recherche. Voilà. Hein. Ces contradictions donc sous-jacentes à cette approche de consensus existent. Hein. Et tout récemment, suite à l'autorisation de la recherche sur l'embryon, j'écoutais par hasard l'émission Le téléphone sonne sur France Inter, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, il y avait comme seul représentant du statut de personne de l'embryon, donc le professeur Leonetti, qui soutenait que l'embryon était une personne dès sa conception. Et tout d'un coup, une journaliste a dit « Mais enfin, on revient 30 ans en arrière, on remet en cause le progrès que représente la légalisation de l'avortement. » Et voilà. Elle avait tout d'un coup compris quel enjeu ça avait. Donc finalement, d'autoriser maintenant, de ne pas être d'accord sur l'autorisation des recherches sur l'embryon, c'est aussi considérer que l'avortement est... Voilà. Sachant que voilà, y a aussi tout le... l'approche des médias traitant cela de progrès, bien sûr. Donc voilà, donc une approche consensuelle, hein, recherche de consensus. Quelle est l'ambiguïté de ce mode de pensée? Voilà, qu'est-ce qui n'est pas juste? Alors ça a déjà été dit un petit peu, c'est de dire que tout se vaut. Hein. Voilà, est-ce que c'est juste de dire cela, qu'il faut donner la même place à tous les points de vue, hein. Et Elisabeth Montfort, toujours, dont on a relu la conférence un peu inaugurale, c'était au premier comité, au premier colloque de bioéthique à Paray-le-Monial en 2002. La culture contemporaine ne reconnaît plus l'existence d'une vérité objective sur l'homme. Et si tout se vaut, la vie politique et sociale n'est plus qu'une affaire de négociation permanente. Et ce sont les majorités qui décident à chaque époque ce qu'est l'homme. Voilà. Et les majorités peuvent décider des choses mauvaises pour l'homme. Hein. Il y a de nombreux exemples, notamment en bioéthique. Hein. Par ailleurs, une autre ambiguïté de ce mode de pensée, eh bien, c'est que dans les négociations, quelles sont les positions qui vont avoir le plus de poids, hein. On va non seulement négocier, mais il va y avoir des luttes d'influence. Hein, et c'est tout le problème des lobbies. Hein, par exemple, le LGBT pour le mariage gay. Hein, mais ça peut être des lobbies économiques aussi. Hein, quand il y a un test de diagnostic, de dépistage produit par une société pharmaceutique, et bien forcément, on va essayer de diagnostic prénatal ou de dépistage de la trisomie 21. Il paraît que les actions de la société Sequanon ont bondi de 500% quand il a été autorisé. Voilà. Donc, en conclusion, sur ces approches, eh bien, l'importance de se situer au niveau du bien réel des personnes et non pas au niveau des nécessités d'un équilibre social. Et puis, surtout, de revenir à une position claire et cohérente sur la personne humaine hein, et de ne pas attendre que ce soit les majorités qui nous disent ce qu'est une personne humaine. C'est pour ça qu'on va en parler en deuxième partie.
On va aborder maintenant le sketch 5.
Salut Ophélie! Comment ça va chez toi? Ta sœur, qu'est-ce qu'elle devient?
Ben, tu sais, avec Lucas, ils sont mariés depuis 5 ans et c'est dur. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Enfin là, ils croisent les doigts. Ils refont une five. Mais c'est pas évident. C'est la troisième fois, pourvu que ça marche. En plus, chez nous, il y a plein d'enfants. Alors Clara, elle pleure tout le temps.
Ah là là, la fivette, c'est la fécondation in vitro, c'est ça?
Oui, c'est ça. On lui a ponctionné ses ovules et ils font la fécondation en labo.
Et ça leur pose pas question ?
Pourquoi ?
Ben, je sais pas, sur le plan éthique. Faire des enfants comme ça, c'est spécial quand même.
Attends, qu'est-ce que t'es en train de me dire là ? Qu'ils devraient passer toute leur vie à pleurer ? Tu vas pas leur faire la morale, non ?
Non, mais tu sais, pour les enfants qui naissent comme ça, c'est dur d'avoir été conçu dans une éprouvette.
D'abord, t'en sais rien. Et puis moi, je me dis que ce qui compte, c'est qu'ils aient un enfant. Ils en ont trop envie.
Oui, mais un enfant, c'est pas quelque chose qu'on se fabrique comme ça.
Mais arrête avec tes grands principes. T'as aucune pitié. Et puis qu'est-ce que tu ferais, toi, si ça t'arrivait pas, si t'arrivais pas à avoir d'enfant ?
Alors, derrière ces réactions, quel mode de pensée on retrouve ? Pas tout à fait. Pardon ? Il y a le droit à, oui. Un désir de compassion, oui. Ils sont trop malheureux. On nous fait pleurer sur le désir d'enfant, peut-être à juste titre, mais il faut s'émouvoir avec celui qui est dans une situation difficile. Il faut compatir. Nous sommes tellement malheureux. Nous serions si heureux si ce bébé venait au monde. Notre désir ne peut être que bon, car notre malheur est trop grand. La valeur morale de l'acte à poser s'identifie au sentiment que pourrait produire cet acte. Et puis de toute façon, on s'aime, on choisit cela par amour. Donc ça, c'est le mode de pensée émotionnel. Et c'est le mode d'entrée de toutes les questions de bioéthique dans l'opinion publique. On a connu ça pour l'avortement, etc. Maintenant, on nous bassine pour l'euthanasie. C'est toujours le cas exceptionnel qui touche nos sentiments, notre cœur, etc. Alors, quelle est l'ambiguïté de ce mode de pensée ? Qu'est-ce qui ne va pas ? C'était dit tout à l'heure. Oui, aussi. Oui, mais la personne là, avec le dessus noir, le pull noir l'a dit, il y a une part d'égoïsme. Hein. Donc on oublie la personne, enfin, on oublie la personne concernée, entre guillemets, la personne qui souffre, non, on lui donne voix, mais effectivement, l'enfant, qu'en est-il, hein ? Ce qui importe, ce sont mes sentiments, pas la vie humaine qui est en situation de vie ou de mort dans la situation éthique considérée, soit pour la fivette, soit pour l'euthanasie. C'est aussi le problème des embryons surnuméraires qu'on a déjà abordé, de la réduction embryonnaire qu'on a déjà signalée, et puis aussi de l'euthanasie. Donc, la propagande par rapport aux questions de bioéthique joue sur cette sensibilité. Okay ? Donc, c'est un ensemble, dans ces propagandes, de procédés qui vont agir précisément sur nos sentiments pour nous attirer dans une direction qui sera suggérée comme bonne ou nous faire fuir une perspective suggérée comme mauvaise. Donc ça a été le cas de l'avortement, de l'euthanasie. On réduit le bien et le mal à ce qu'on ressent comme bien et mal. C'est l'exemple du film d'Amour qui a eu la Palme d'Or alors que le mari est sa femme. Il y a un rôle écrasant des médias dans l'approche émotionnelle. Et si vous n'avez qu'une morale de sentiment, vous devenez éminemment manipulable par toutes ces propagandes, et c'est cela qu'il faut déjouer. Il y a un équilibre à reprendre dans l'approche de ces questions, et l'équilibre, c'est par la réflexion de l'intelligence. Okay ? Donc, en plus, cette manipulation introduit une usure des sentiments. C'est le cas de la recherche sur l'embryon et du clonage thérapeutique. En 94, la loi était nettement contre. La loi de 2002, interdiction sauf dérogation. Et la loi de 2013, autorisée sous certains critères. Alors les chercheurs sont contents et disent que cela change la façon dont ils sont perçus par les collègues. Et dans quelques temps, bien sûr, la vérification des critères d'autorisation sera jugée superflue. Donc il y a une progression, une banalisation, il y a une usure des sentiments, et les lobbies comptent sur cette usure de l'émotion. Un sentiment violemment négatif d'abord contre la recherche sur l'embryon peut s'émousser avec le temps. Et les lois progressivement passent. En conclusion, il y a importance de former notre conscience morale sur le bien et le mal. Notre conscience morale révèle un jugement de l'intelligence et donc suppose un travail de l'intelligence. Qu'une chose soit bonne ou non, cela ne dépend pas de ce que nous ressentons, cela dépend de ce qu'elle est réellement. Il faut donc s'appuyer sur une anthropologie solide, fondée sur la nature humaine, sa dignité, sa vocation. Alors dans le cas de la fillette qu'on a vu là, il s'agit de se placer du côté de l'enfant, se poser la question s'il est digne pour une personne humaine d'être conçue par l'intermédiaire d'un tiers et dans une éprouvette. Sans parler des risques de malformation, des conséquences génétiques, il y a aussi des conséquences psychologiques qui ne font pas encore l'objet d'études très sérieuses, aussi bien pour les conséquences psychologiques que pour la fréquence des anomalies génétiques chez les enfants conçus de cette manière.
Pour autant, amour et vérité se rencontrent, hein, donc compassion, émotion et partage de la peine des couples en espérance d'enfants, c'est très important, hein, il faut les accompagner et il ne s'agit pas de les juger ni quoi que ce soit, hein, y a tout. Mais il y a une vérité sur l'acte qui est posé dans ces procréations médicalement assistées qu'il faut aussi aborder avec l'intelligence, avec la raison, hein, tout en se laissant toucher par la peine des gens, c'est très important. Donc en conclusion sur cette première partie, qui était agrémentée de ces sketchs, nous avons vu 5 situations. Hein. Nous avons vu les trois premières, c'était des modes de pensée qui en fait traduisent une vision de l'homme. Hein. La vision individualiste, avec une exaltation d'une fausse liberté, on l'a vu. La vision utilitariste, avec un mépris, voire une négation de ce que c'est qu'une personne humaine. Et puis la vision écologiste, qui méconnaît la juste place de l'homme dans la nature. Et puis les deux sketchs derniers, c'est plutôt des attitudes, hein, de pensée contemporaine. Hein. La consensualité, chercher le consensus, et l'émotionnalité. Mais toutes les deux reflètent en fait une sorte d'économie qu'on fait d'une vérité objective sur l'homme. Hein. On va se garder de dire vraiment ce qu'est l'homme et en quoi il doit être respecté. Donc pour chaque situation, on pourrait bien sûr prolonger l'analyse, et quand il y a des arguments particuliers liés au début de vie ou aux fins de vie, je pense que ce sera l'objet dans les deux autres carrefours de ce parcours. On préférerait profiter du temps qui nous reste pour vous présenter l'approche personnaliste, qui est l'approche centrée sur la notion de personne humaine, qui est l'approche qui est proposée par l'Église, qui a été largement développée par Jean-Paul II, et dont on a vu à plusieurs reprises finalement dans les situations des sketchs combien c'est le point de faiblesse, hein, des modes de pensée contemporains. Donc, la notion de personne, c'est ce qui fonde ultimement tous les choix éthiques. Hein. Les mots qui reviennent le plus souvent, quel que soit le problème abordé, c'est respect de la vie humaine en l'occurrence, respect de la personne humaine, de sa dignité. Hein. Et Jean-Paul II, dans sa lettre à l'aube du troisième millénaire, disait « Je veux parler ici du devoir de s'engager pour le respect de la vie de tout être humain, depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. » Et c'est bien pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui, hein, et que nous réfléchissons ensemble. Donc le fondement de nos choix en bioéthique, c'est le respect de la vie humaine. Et pourquoi faut-il respecter la vie humaine ? Eh bien, parce qu'une vie humaine, c'est une personne. Et ce statut de personne, hein, c'est le statut dont jouit tout être humain, quel que soit son état. Hein, parce qu'il est profondément, intimement lié, on va le voir, à sa nature humaine. Et c'est ce statut de personne qui confère sa dignité à toute vie humaine.
Alors, vous avez sûrement beaucoup de questions, donc essayez de les noter parce que ça sera trop court pour qu'on puisse avoir un temps de questions, débat. Faites-les remonter en les écrivant sur votre carnet. Et puis on essaiera dans le parcours de trouver un temps pour les échanges, y compris d'autres sujets qui ne sont pas abordés aujourd'hui. Alors, définition toute simple de Jean-Paul II. Être une personne, c'est tout simplement être quelqu'un, pas être quelque chose. Voilà, Jean-Paul II, rien que ça. Être quelqu'un. Alors, dans l'histoire de la pensée humaine occidentale, en fait, au départ, la personne, la notion de personne, c'est une notion religieuse révélée. Dieu se révèle à Abraham comme un Dieu personnel qui fait une alliance unique avec Abraham qu'il considère comme une personne unique. Et cette notion était introduite par les chrétiens dès les premiers siècles qui cherchent à comprendre la Trinité. Ils découvrent le concept de personne divine. Dans la Trinité, les trois personnes divines se communiquent leur amour en relation l'un à l'autre. Dans le mystère de l'incarnation, c'est la personne divine de Jésus qui permet de réunir en distinguant, mais sans les séparer, à la fois sa nature humaine et sa nature divine. Donc c'est une notion religieuse, mais c'est aussi une notion philosophique. Le philosophe Boèce, au VIe siècle, disait « La personne est une substance individuée de nature raisonnable, donc de nature humaine, si la raison est le propre de l'homme. » Notion très élaborée philosophiquement, mais qui n'a jamais converti personne. Donc la notion tombe dans l'oubli jusqu'au XXe siècle, où les philosophes y font appel pour faire face au marxisme qui considère tous les hommes de façon collective comme indifférenciés. Et face à ce marxisme, on peut citer Emmanuel Mounier, philosophe chrétien, qui fait une critique de l'individualisme et revient à la notion de personne puisée dans la religion pour insister sur la relation. CF, que sais-je, le personnalisme, 1955. La personne est un être de relation. La société humaine est composée de personnes qui sont des relations les unes avec les autres. De même que la notion de personne a été définie pour aborder le mystère de la Trinité, nous sommes créés à l'image du Dieu. Dans la Trinité, il y a une relation permanente. Le Fils accueille le Père et se redonne à lui, etc. Vous connaissez la parole de Dieu. Eh bien, nous aussi, à l'image de Dieu, nous sommes définis en tant que personne par la capacité d'accueil et de don de notre propre personne. Accueil de notre personne, don de notre personne. Et c'est ce qui fait profondément la notion, c'est la notion principale qui définit notre personne.
Donc de nos jours, l'Église propose une vraie philosophie de la personne qui présente les trois caractéristiques suivantes donc on peut retrouver notamment dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église. Vous savez, ce document qui nous introduit à la doctrine sociale de l'Église produit par la Commission Justice et Paix. Donc les trois caractéristiques, c'est d'abord l'unité de la personne. La personne humaine est une parce qu'elle est donc animée par une âme spirituelle, immortelle, qui est propre d'une personne humaine, voilà. Mais elle est une en tant qu'être un corps et un esprit. Le propre de la nature humaine, c'est d'être un corps et un esprit unis et indissociables. Esprit au sens capacité spirituelle, à l'intelligence, la volonté, la liberté, voilà. Donc on dit aussi que l'esprit et la matière dans l'homme ne sont pas deux natures unies, mais c'est leur union qui forme une nature unique, la nature humaine. Voilà. Donc un être humain, tout est humain en lui. Il n'y a pas l'esprit qui serait humain et puis le corps qui serait un corps, voilà, matériel, animal peut-être. Voilà. La nature humaine a cette propriété unique d'être cette union de corps et d'esprit. Et donc, tout est humain, et la notion de personne s'enracine dans cette humanité. Donc, quand je dis à quelqu'un « tu es une personne », je te reconnais comme un être humain pleinement, tout en toi est humain. Il n'y a pas une partie qui n'est pas humaine. On est une unité de la personne. Et personnellement, dans mes études de biologie, je dois dire que j'étais très très perturbée par la mentalité sous-jacente qui consiste à dire que ben, l'homme n'est qu'un animal un peu plus évolué que les autres. Hein. Mais finalement, certains biologistes évolutionnistes s'attachent à démontrer, ben oui, mais les grands singes, ils savent calculer quand même. Hein. Et puis même la souris, elle peut apprendre quelque chose. Enfin, ils s'attachent à nous dire que finalement, nos capacités proprement spirituelles humaines ben, ne sont que finalement un cran légèrement au-dessus de certains animaux, mais finalement pas différent en nature. Et il n'y a pas cette acceptation de la nature unique humaine, différente de la nature animale. Voilà. Et personnellement, moi, ce qui m'a poussé à faire quelques cours de philo quand même pour me remettre les choses en place, parce que j'étais vraiment perturbée aussi dans ma foi. Hein. Et le manque de repères de nos contemporains vient beaucoup de cette prise de position de la science qui, en tant que discipline objective, pense qu'elle a une chose à dire sur la vérité de ce qu'est l'homme, hein, alors qu'elle sort de son domaine lorsqu'elle va nous dire ce qu'est l'homme. Hein. Voilà. Donc, l'unité de la personne, première caractéristique de la personne humaine, corps et esprit. Deuxième caractéristique, l'unicité de cette personne, hein, par son ouverture à la transcendance, son ouverture à une relation à Dieu, son ouverture à l'infini, hein, et par le fait qu'elle reste, par le fait qu'elle est capable aussi par sa conscience, d'exister en tant que soi, hein, et donc de s'auto-comprendre, capable de liberté. Et pour illustrer cette unicité de la personne, eh bien, réalisons que nous sommes la même personne depuis notre conception jusqu'à notre mort, alors que tout en nous change. Hein. On n'a plus les mêmes cellules qu'au début. Voilà. Hein. Donc on change, on évolue, mais on reste la même personne unique, hein, parce que nous le croyons en relation avec notre Créateur. Et est capable de dire « je ». Voilà. Et troisième caractéristique, eh bien, la sociabilité, ce qu'on a déjà évoqué, le fait que la personne est un être de relation, un être fait pour le don, un être pour qui il n'est pas bon d'être seul. Voilà. Et ces trois caractéristiques, nous croyons, peuvent être acceptées par tout homme qui accepte de reconnaître la loi naturelle, c'est-à-dire la loi qui est inscrite dans la nature des choses et des êtres qui nous entourent et qui nous fait, je dirais intuitivement, réaliser ben, que la nature humaine est unique, est une et nous rend capable de relations. Hein, voilà. Mais on va le voir, Jean-Paul II enracine cette notion de personne de façon théologique dans l'Écriture.
Alors, Jean-Paul II éclaire l'unité et l'unicité de l'être humain par l'expérience de ce qu'il appelle la solitude originelle. CF Genèse 2, chapitre 2, verset 20. L'homme donnant un nom à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et toutes les bêtes sauvages, mais pour un homme, il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. La nature humaine est différente de celle des animaux. L'homme ne se reconnaît pas dans la nature des animaux. L'homme est le seul à pouvoir cultiver la terre et la dominer. Il a une place particulière, il est différent des autres êtres de la création. Il fait l'expérience de sa solitude face à cette non-reconnaissance de sa nature humaine dans la création. Il se découvre seul comme personne, comme individu. Il appelle à une relation de ce fait, de cette solitude, avec quelqu'un qui lui correspond, et c'est la femme. L'homme ne se reconnaît dans aucun animal, alors qu'il leur donne un nom à chacun. Donc il les connaît parfaitement. Avant la chute, il avait ce qu'on appelle les dons préternaturels, notamment la science infuse. Donc il connaissait parfaitement chaque créature qu'il nommait, mais il n'y se reconnaissait pas. Et c'est par son corps qu'il découvre qu'il peut se donner à aucun des êtres, qu'il connaît et par conséquent qu'il est seul. C'est par le corps qu'il fait l'expérience de cette solitude. Car aucun être personnel n'est capable de le recevoir. Il découvre qu'il est le seul à être une personne. Ceci engendre une souffrance de ne trouver personne à qui se donner. C'est ce que Jean-Paul II appelle l'angoisse existentielle. Et c'est ce qui fait dire à l'Écriture, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Donc c'est l'expérience de la notion de personne humaine, différente par sa nature des autres créatures, et unique dans sa relation avec Dieu, qu'il a voulu pour lui-même, qui est le point de départ de la relation avec les autres personnes.
Donc cette expérience de la solitude originelle fait naître dans la conscience humaine une soif de se donner et en même temps une souffrance de ne pas pouvoir assouvir cette soif. Voilà. Donc la personne est appelée à la communion avec d'autres personnes, voilà, à l'image des personnes divines dans la Trinité. Donc le récit de la Genèse se poursuit avec la femme tirée de l'os d'Adam pour être de même nature que lui, hein, donc l'être de mon être, la personne de ma personne finalement, mon autre moi, voilà. Et donc le corps de la femme est différent mais de la même qualité personnelle que celui de l'homme, et l'homme va alors pouvoir se donner. Et donc Jean-Paul II insiste beaucoup sur cette capacité à se donner et à accueillir une autre personne, donc comme critère vraiment de la personne, comme fondement du personnalisme. Et nous croyons profondément que toute question de bioéthique peut être abordée sous cet aspect fondamental, hein, de la capacité d'une personne humaine au don et à l'accueil réciproque d'autres personnes, et que c'est un critère fondamental du discernement.
Alors, 5 minutes pour aborder le péché originel. Sans problème. Notre désir de nous donner en tant que personne est une trace en nous de l'innocence originelle. Hein. Mais il y a eu le cataclysme du péché. Et ce cataclysme établit une frontière entre l'homme des origines et l'homme historique actuel, dit Jean-Paul II, que nous sommes aujourd'hui. Nous ne sommes plus les mêmes. Il dit, c'est un cataclysme ontologique monumental. C'est l'expression de Jean-Paul II. Il s'agit quasiment d'une modification de la nature humaine, de l'être et donc de la personne. Il y a une transformation de sa nature, ce qui conduit à une vision de la personne humaine qui ne correspond plus à la vision originelle. Il n'y a pas de solution au problème anthropologique en dehors de la lumière du péché originel. C'est pour ça que j'ai voulu l'aborder. La seule explication est d'ordre théologique, du domaine de la révélation inaccessible à la raison. Sinon, la notion de personne, dit Jean-Paul II, humaine, reste obscure. Alors, quelle est la conséquence du péché sur la notion de personne humaine? Eh bien, il y a un orgueil de la créature, une rupture de la communion avec Dieu. L'homme n'accepte plus de recevoir son être de Dieu, d'être dépendant vis-à-vis de son créateur. Je ne dépendrai pas de toi, je veux moi-même décider de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et on réfère là à l'approche individualiste. Il y a perte de la domination, c'est-à-dire au sens service de la terre, de la nature, CF psaume 8, et toute la création en subit les conséquences. Il y a une dimension cosmique du péché originel. L'ordre établi par Dieu est atteint. Alors, grâce... On va passer sur les différentes conséquences, mais il y a une bonne nouvelle. Laquelle ? Voilà. La personne humaine est sauvée par le Christ. Nous ne vivons plus sous le règne du péché, mais sous le règne du Christ. La mort et la résurrection du Christ viennent guérir les fractures du péché originel. Par le baptême et les sacrements, avec le don de l'Esprit, il y a restauration de la conscience de notre dignité humaine, de notre dignité d'enfant de Dieu, passage de la domination de l'autre au don et à l'accueil réciproque, et restauration dans l'unité et la capacité à être en communion avec Dieu et avec l'autre. Donc, ce sont les temps de l'Esprit-Saint qui nous éclairent et nous aident à vivre ainsi. En conclusion...
Donc toute question de bioéthique peut être abordée donc sous cet aspect fondamental de ce qu'est une personne humaine en tant que personne unique et capable de dons et d'accueil réciproque d'autres personnes. Et c'est un critère fondamental de discernement. Et on pourrait, si on avait le temps, revisiter les sketchs un peu et les situations à la lumière de cet éclairage de Jean-Paul II sur la personne humaine. Personne blessée, certes, donc ces capacités de la personne humaine sont quelquefois obscurcies dans certaines situations, mais personne sauvée par le Christ, et donc c'est notre bonne nouvelle et notre espérance que cette personne sauvée va être reconnue dans les problèmes bioéthiques. Donc voilà. Et donc ce n'est pas si facile. On va essayer de cheminer ensemble dans ce parcours pour avoir des éclairages un petit peu plus là-dessus. Et on vous invite à compléter aussi largement tout ce qu'on a pu ébaucher en vous formant et en allant lire à droite à gauche sur la question. On a quelques ouvrages à vous conseiller si vous voulez. Voilà. Alors, les questions, on peut vous passer des post-it ou faites-les remonter peut-être ?
C'est trop tard.
Alors, bon, ça va être un petit peu tard pour passer un bon temps de questions-réponses. D'abord, on remercie vraiment Jean et Marie-Dominique Devigne pour ce qu'ils nous ont donné. On s'excuse un peu de vous avoir fait tailler à la hache dans tous ces concepts un peu peut-être difficiles aussi. Vous avez conscience qu'on a pris vraiment les fondamentaux et on a essayé de survoler des courants de pensée. C'est quand même des siècles de réflexion. Voilà. Alors, ça ne se termine pas là. Donc, un deuxième temps à ce parcours sur les débuts de la vie donc a lieu. Un troisième plutôt sur les fins de vie. Donc, on pourra là encore reprendre en fait des questions plus orientées sur début ou fin de vie. Également, vous donner une autre bonne nouvelle, toute relative par rapport à la première, le Christ est ressuscité. Nous avons cette année pu mettre en fait en ligne un site internet, donc il y a 2 mois à peine d'âge, qui s'appelle bioéthique.net, sur lequel vous retrouverez justement des témoignages, des fondements, des articles de fond, toutes ces questions à la fois philosophiques, fondamentaux, à la fois début de vie, fin de vie, toutes les questions de bioéthique qui nous agitent. Donc vous verrez, il y a moyen de continuer en fait aussi là, de continuer à se former. Mais dès avant, on va vous distribuer des petits post-it sur lesquels vous allez pouvoir noter vos questions qui sont peut-être encore fraîches pour l'instant, que vous pouvez nous faire remonter, puis qu'on essaiera d'aborder. Alors maintenant, ça va peut-être être un peu dur et juste, mais en tout cas, certainement demain après-demain. Et puis on est à votre disposition également pour pouvoir répondre à telle ou telle question maintenant de manière plus individuelle, sans gêner le groupe suivant qui devrait pas tarder. Mais là, finalement, ils sont pas encore là, donc il nous reste 1 ou 2 minutes. Donc si vous voulez, on peut encore en profiter puisqu'ils ne sont pas là. On va vous faire passer le micro.
Constatation à travers les remous des derniers mois qui ont fait quand même beaucoup penser Monsieur Tout le Monde et peut-être encore plus les chrétiens dans les débats qui étaient sur la famille en France. J'étais vraiment percutée par le fait que, comme tu disais Jean, si on ne relie pas au péché originel la vision de l'homme qu'on a aujourd'hui dans la société, c'était incompréhensible. Et je me voyais en train de parler à mes futurs petits-enfants adolescents pour leur expliquer le gender. Et je me disais, mais en fait, les choses sont simples. Si on parle à un enfant et qu'on lui dit, mais simplement, le gender, c'est simplement que c'est des gens qui pensent, qui se sont révoltés contre la nature. La nature affectue à une fille, la nature affectue à un garçon, et ils se sont révoltés. Et là, on retrouve complètement le calque de la situation du péché originel. Et en fait, c'est, si on arrive à, alors ça c'est avec des enfants, c'est simple, mais si on arrive à emmener des adultes à considérer que, en fait, c'est la révolte qui parle en eux, dans toutes les situations bioéthiques, hein, si c'est, même toutes les approches émotionnelles qu'on rencontre par rapport aux questions bioéthiques, c'est, il y a en fond de d'écran une colère intérieure, une révolte contre la situation. Et si on arrive à amener la personne à reconnaître ça et à apaiser, il y a déjà un apaisement qui se fait au niveau de l'intelligence au moins, et où la personne dirait, bah oui, moi je suis comme ça, mais effectivement, si je réfléchis avec mon intelligence, on peut penser autrement. Il y a une ouverture qui se fait. Alors que c'est vrai qu'actuellement, le paysage médiatique nous impose un mode de pensée qui est uniquement par le petit côté de la lorgnette, qui est le côté émotionnel, bloqué dans une révolte, dans une colère contre l'événement.
Je suis tout à fait d'accord, mais dans les situations pastorales, il faut bien comprendre que à l'origine de ces réactions, il y a aussi la blessure. Et notre regard vis-à-vis de ces personnes-là doit être le regard du Père, de la miséricorde, quoi. Donc, et de les accueillir avec leurs blessures. Alors, ça demande du temps, de l'accompagnement, et pour effectivement les aider à cheminer et à comprendre d'où vient cette réaction. Notamment quelle était la blessure fondamentale qui est souvent familiale. Hein. Donc on a souvent des familles cassées, des modèles parentaux qui sont inexistants ou défaillants, et donc une construction insuffisante, notamment dans les jeunes générations. Et donc leur choix de vie est difficile. Et donc il y a à la fois effectivement l'orgueil, le péché originel, mais il y a aussi la blessure. Et donc à la fois leur apporter la lumière du Christ pour que ils reçoivent effectivement l'amour dont ils ont besoin pour avancer et faire la vérité, mais à la fois être là, présent, quelquefois sans rien dire, pour effectivement que les choses se décantent et puissent faire un chemin de guérison qui est aussi donné par le Christ et l'Esprit Saint.
Là, vous avez distingué deux situations par rapport à ce que disait madame, qui est de l'approche pastorale et effectivement les personnes qui sont en révolte parce qu'ils ont une blessure et donc que l'on peut approcher avec un certain type d'argument ou de compassion, de prière, etc. Mais il y a aussi toutes les personnes, et on a mis en filigrane les médias et le travail de SAP qu'ils font, qui emporte les grandes masses, la population, des gens qui ne sont pas forcément blessés, mais qui se laissent. Alors vous l'avez abordé à un moment en parlant de les sentiments, le sentimentalisme, mais là il y a une masse de gens et un poids de l'argumentation sur effectivement.
C'est vrai, les médias, il faut le dire, sont manipulés. Quelque part, il y a une orchestration, et avec leur liberté aussi, des journalistes. Bon, je vais me faire fusiller par les journalistes, s'il y en a ici. Mais c'est vrai que on a l'impression qu'il y a une orchestration. Bon, ceci dit, soit on réagit par une réaction de type violence, et on n'arrive à rien. Soit on occupe les terrains, mais de la façon veilleur, enfin, vous connaissez mieux que moi, dans la prière, et en demandant la conversion de tous les acteurs de cette orchestration. Et je pense que notre victoire, ça sera la victoire de l'Esprit Saint. Il s'agit de demander au Seigneur la conversion de tous ceux qui effectivement ne voient pas la lumière ou sont loin de la vérité sur l'homme. Et il n'y a que ça qui pourra assurer la victoire, et ça sera la victoire aussi pour eux, hein, pour eux, dans la mesure où ils se tourneront vers le Christ, pas uniquement celle de l'Église ou celle de certains groupes, etc.
Je dis, on a aussi un travail à faire, alors je me permets de répondre puisque je travaille dans les médias aussi. On a aussi un travail de transcription de notions qu'on reçoit par la foi, par exemple là sur la personne humaine, de pouvoir les transcrire en des mots qui pourront être reçus dans un monde laïque. Par exemple, cette notion de la personne être de relation, c'est vraiment quelque chose qui peut être entendu par des non-croyants, et ce sont des points que nous devons travailler pour pouvoir les amener dans le débat, parce que ça peut être reçu, par exemple, dans le débat sur le suicide, pouvoir amener cette notion de conséquences du suicide sur l'environnement de celui qui pose ce choix et toutes les conséquences négatives que ça peut avoir. Ça, c'est vraiment des arguments qui peuvent être reçus. Et l'an dernier, dans le même type de carrefour, on avait un prêtre belge qui avait été entendu au Sénat belge quand était discutée la loi sur l'euthanasie. Et ça, c'est un point sur lequel il s'est beaucoup appuyé. Il nous a conseillé de nous appuyer sur des arguments de ce type-là, donc par exemple, par rapport aux arguments individualistes de liberté de la personne, de volonté, de droit, etc., de toujours remettre cette notion de bien commun, de conséquences sociales d'un acte qui va être posé. Et c'est des notions sur lesquelles on peut vraiment s'appuyer, par exemple, dans la procréation médicalement assistée. Vous savez, toutes ces associations qui sont nées de jeunes qui ont été conçus eux-mêmes dans ces types de conceptions, qui sont des associations totalement laïques, aconfessionnelles, eh bien, ces jeunes témoignent eux-mêmes de leur malaise, témoignent de... voilà. Et donc, je pense qu'il faut vraiment collecter ces arguments de réalité, de vérité, qui s'appuient sur des réalités plus profondes que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons lire sur le plan de la foi. Mais il faut qu'on apprenne à les transcrire en arguments sociologiques qui pourront être, malgré tout, mis dans ce débat dont nous ne pouvons pas faire l'économie, parce que, de fait, on est quand même dans une société où le débat, on ne pourra pas en faire. Voilà. Mais au moins, eh bien, donnons des arguments de vérité dans ce débat.